Je vous invite à trouver l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3. Colossiens 3. Et nous allons lire un seul verset aujourd'hui, parce que nous sommes arrivés à ce point dans l'Épître après plusieurs semaines. Et ce verset contient assez de matière pour nous retenir pendant ce moment ensemble. Je vais peut-être... Je vais bien me limiter à ce verset. Nous avons un passage parallèle à lire aussi. Verset 19 dans le chapitre 3. L'apôtre dit... Marie, aimez chacun votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Ça, c'est notre texte. Et le texte parallèle se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5. Ces deux épîtres ont probablement été écrits au même moment par l'apôtre Paul depuis la prison en Rome. Il n'a pas besoin de s'étendre beaucoup sur ce verset auprès des Colossiens parce que le pasteur des Colossiens, Epaphras, est avec lui. S'est rendu chez lui et va rapporter l'épître en Colosse. Ce n'est pas le cas pour l'église d'Éphèse et donc il prend le temps de décrire un peu plus la consigne donnée au mari. Et donc, je lis à partir du verset 25 dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Et vous allez voir, ça commence de la même manière. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifié par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut, toute belle. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps, membres du corps de Christ. C'est pourquoi, citation de Genèse chapitre 2, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère... Un homme et une femme qui deviennent une seule chair, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Il aurait pu le dire au sujet, par rapport à le mari et l'épouse, mais il dit d'abord, il faut le comprendre par rapport à Christ et son épouse, qui sont devenus un. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Nous avons passé notre temps la semaine passée, dimanche passé, à parler de ce devoir de la femme de suivre le leadership de son mari. Je ne veux pas utiliser le mot « soumise » parce que c'est un gros mot en France aujourd'hui, mais nous avons vu que dans la Bible, ça veut dire complètement autre chose que dans le langage de la France actuelle. Mais nous pourrions dire que si le devoir pour vous, les femmes, les épouses, si votre devoir, c'est d'aimer votre mari assez pour vivre pour lui, le devoir des maris, c'est d'aimer chacun votre femme assez suffisamment pour mourir pour elle. Et donc, dans les deux cas, c'est un grand amour. Alors, nous devons commencer aujourd'hui en nous posant juste la question, qu'est-ce que l'amour ? Parce que on n'a jamais autant parlé de l'amour qu'aujourd'hui, dans l'Occident du 21e siècle. On n'a jamais autant parlé de l'amour et on n'a jamais autant mal compris l'amour. Et votre conception de ce que c'est que l'amour est extrêmement importante si vous êtes épouse, si vous êtes mari. Je vais diriger mes remarques envers les mariés et vous allez prendre pour vous aussi si ça vous concerne. Parce que votre manière de comprendre l'amour est en train de vous affecter en ce moment même dans votre manière d'aimer votre femme. Et bien sûr. Et aujourd'hui, on pense souvent que l'amour, en tout cas l'amour d'un mari pour sa femme, est une chose irrationnelle. Ça me tombe dessus, je tombe amoureux. Quelque chose de mystérieux m'arrive. Et donc, moi, je ne peux rien faire. Ça m'est arrivé, je tombe amoureux et je tombe un jour, je peux tomber en dehors de cet amour dans lequel je suis tombé. Et donc, il n'y a rien de plus courant que cette pensée de cette fameuse actrice de ma génération, qui s'appelait Zsa Gabor, qui avait été mariée 9 fois, cette fameuse actrice, et qui a dit ceci. « Des femmes fatigantes sont toujours en train de me demander pourquoi j'ai eu tant de maris. Il n'est pas possible pour elles de comprendre que tu tombes dans l'amour. » Je traduis littéralement. « Tu tombes amoureux », mais en anglais, « you fall in love », »,« tu tombes dans l'amour », mais tu tombes aussi en dehors de l'amour. Et quand tu n'es plus amoureux, c'est mieux de changer de partenaire et de rester amis que de rester ensemble et apprendre à se haïr. Cette attitude et son comportement se répètent partout dans le monde occidental. On pense que l'amour est un sentiment qui nous arrive. On pense que l'amour est un désir pour quelqu'un d'autre. Et donc ces idées un peu folles nous nuisent beaucoup. Maintenant, je voudrais donc vous parler pendant un instant du concept biblique de l'amour et puis nous allons parler aux maris de leur amour pour leur femme. Il y a 3 sortes d'amour distinctes. Dans le premier, au moins dans l'Antiquité, s'appelait Eros. Alors, vous comprenez, Eros, nous tirant notre mot érotique de cela. Mais Eros, en grec, ne signifie pas simplement l'amour sexuel ou physique. Eros est un amour de désir, mais pas forcément de désir physique. C'est un amour d'attirance ou d'attraction. C'est ce qui commence le coup de foudre. C'est ce qui donne l'étincelle entre un homme et cette femme et pas une autre. Cet amour est légitime et nécessaire. Ça fait partie de la perspective de la Bible sur l'amour. Par exemple, dans le livre de Proverbes, dans la Bible dit, en parlant à un homme de sa femme et en représentant sa femme comme une source, une fontaine, il dit que ta source, ta femme, ta source, soit bénie. Et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Voilà Eros. D'accord. Et la Bible exhorte les hommes à avoir cette sorte d'amour pour leur femme. Très bien. Deuxième sorte d'amour, Philos. Alors, Philos, Philadelphie. Philos parle de l'amour non pas d'attirance ou de désir, mais un amour de compagnie. Un amour par lequel deux personnes ont une forte amitié, ils aiment tout simplement être ensemble. Philos peut être entre deux garçons ou deux filles un garçon et une fille qui n'ont aucun intérêt romantique. Philos est un amour de compagnie et d'amitié. La Bible en parle, mais la Bible en parle aussi vis-à-vis des couples. Par exemple, écoutez ceci dans le livre d'Ecclésias. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donnée sous le soleil. Pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Au milieu de toutes les souffrances et les détresses que nous avons dans ce bas monde, il dit, Dieu te réserve ceci, alors jouis de la compagnie de ta femme. Jouis de cet amour que vous avez ensemble, cette joie d'être ensemble. D'accord ? C'est très important pour le mariage. Mais ces deux sortes d'amour, si ce sont les deux seules sortes d'amour que vous avez dans votre mariage, alors ils vont diminuer, ils vont subir l'attaque de vos fautes l'un contre l'autre, et très souvent ça finit par disparaître. Et quand les gens disent à moi en tant que pasteur, j'entends parfois cela, les couples viennent pour le conseil, nous ne nous aimons plus. Nous n'avons plus, simplement plus d'amour l'un pour l'autre. Et souvent ils ajoutent, on se demande même si on en a eu au début. Et je dis, où sont vos souvenirs? Les souvenirs sont très malléables, n'est-ce pas? On les change. Mais ces deux sortes d'amour sont nécessaires, mais ce sont des accompagnements d'un amour plus fondamental et plus solide que la Bible, dont la Bible parle dans notre texte d'aujourd'hui en disant « Marie, aimez chacun votre femme ». Et le mot « Marie » est le mot non pas qui nous donne « Eros » ou « Philos », mais c'est le mot qui nous donne l'amour « Agapé ». D'accord ? « Agapao ». C'est le verbe en grec. Et c'est quoi cet amour? C'est pas un amour d'attirance. Je te veux parce que tu m'attires. Ce n'est pas tout simplement un amour de compagnie. J'aime être avec toi. Mais c'est un amour qui pousse quelqu'un par affection pour l'autre de désirer de tout ton cœur son bien et de vouloir tout donner, tout sacrifier pour que cette autre personne soit bénie et protégée, souvenir à ses besoins, que cette personne soit heureuse. C'est un amour, non pas qui reçoit, c'est un amour qui donne. Dieu a tellement aimé le monde, dit l'évangile de Jean, chapitre 3, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a, aidez-moi, qu'il a donné son fils. Donc l'amour agapé est un amour qui donne et se donne à l'autre pour que l'autre soit donc heureux et béni. Et donc c'est de cet amour que l'apôtre Paul parle par l'inspiration de l'Esprit, en disant à chacun de vous qui êtes mari, ou vous qui le serez un jour, mari, aimez d'un amour agapé, aimez chacun votre femme. Et maintenant, donc, pour juste finir d'enterrer les caricatures mauvaises de notre siècle par rapport à l'amour, je vous donne quelques points. Donc l'amour agapé n'est pas un amour irrationnel qui nous tombe dessus, qu'on ne comprend pas, grand mystère, mais c'est un amour rationnel. Vous pouvez comprendre l'amour agapé et croître dans votre capacité de comprendre, si vous êtes chrétien, et d'aimer avec un amour agapé. C'est pour cela que l'apôtre Paul prend tout le temps d'expliquer « aimer votre femme comme Christ a aimé l'Église » et s'est livré pour lui, afin de faire ceci, afin de faire cela. C'est comme on aime son propre corps, il est en train de nous instruire. Parce que l'amour agapé est un amour qu'on peut comprendre, qui bouleverse notre entendement, notre manière de comprendre l'amour, Peut-être que tu t'es marié en te disant « Ah, je vais être aimé maintenant ». Oui, ça fait partie de la chose, mais principalement, dans l'optique chrétienne, tu ne te maries pas pour être aimé, mais pour que l'autre soit aimé. Et donc, quand chacun fait cela, nous avons vraiment le bonheur. Donc, ce n'est pas une chose irrationnelle, c'est une chose que nous pouvons comprendre. Et en comprenant cet amour, nous arrivons à voir que, par exemple, le monde n'a pas raison de penser que l'amour est la chose la plus simple et la plus facile qui soit. Les gens souvent, et souvent les jeunes personnes qui sont en âge de pouvoir se marier, pensent que l'amour est, une fois qu'on tombe amoureux, tout est facile. Ça coule de source et il n'y a rien de plus facile. Mais l'amour a amené Jésus-Christ à une croix. L'amour a amené Jésus-Christ à une croix. Et pour arriver à cette croix, il a sué, il a transpiré, il a gémi, il a dit « Père, si cette coupe peut se passer de moi, qu'il en soit ainsi. » Et lorsque nous aimons, nous nous faisons pris dans un piège de l'amour. Et la seule manière d'en sortir, c'est d'être complètement révolutionné. C'est d'apprendre à pardonner, à faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginé qu'on puisse faire ou qu'on devait faire. Pour prouver que l'amour n'est pas la plus simple des choses qui coulent de source tout simplement, nous n'avons que cité un verset comme 1 Pierre 4, 8, « Avant tout, ayez pour les uns pour les autres un amour ardent, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Vous trouvez ça facile de couvrir une multitude des péchés de votre femme, si vous êtes marié, quand elle n'est pas agréable envers vous, ou vice-versa, vous, femme, quand votre mari n'est pas agréable, c'est facile de couvrir ses fautes, ses négligences? Non. L'amour est une chose magnifique, mais une chose qui s'apprend. L'autre chose que je dirais au sujet des caricatures, c'est que l'amour exige toujours un choix. Ce n'est pas un sentiment qui... J'attends le sentiment si je ne l'ai pas... Donc, je n'ai pas d'amour envers la personne. L'amour engage ta personne entière. Et ça veut dire ta détermination, ton choix, malgré tes sentiments du moment. Ah, c'est vraiment sa faute. Mais je vais aller lui acheter des fleurs. Elle est plus fautive que moi dans cette affaire. Mais je vais aimer ma femme par la grâce de Dieu. Et quand je choisis d'aimer, et quand par la grâce de Dieu, j'arrive à faire ce geste d'aimer, qu'est-ce qui arrive? Les sentiments changent. Ce n'est pas les sentiments d'abord qui me poussent à faire des gestes aimants, c'est l'amour. Et les gestes d'amour qui agissent sur mes sentiments. Donc, un publiciste et auteur a écrit un livre de lettres amoureuses à sa femme, et dans ce livre, il a dit ceci au sujet du besoin du choix, de la volonté d'aimer. « Plus nous sommes mariés, plus je vois que le bonheur dans le mariage ne se produit pas automatiquement. Tenons-nous toujours par la main et disons toujours notre amour l'un à l'autre. Ne nous prenons jamais pour acquis, donnons et cédons l'un à l'autre avec un esprit de joie. C'est ce que nous avons fait et ça marche, n'est-ce pas ?» Et vous voyez donc cette détermination, cet engagement d'aimer. Donc, Avec cela, nous voulons regarder le passage en Éphésiens 5 parce qu'il décrit en détail l'amour que le mari doit avoir pour sa femme. Et je dirais juste ceci en entrée de jeu. En raison de sa sensibilité, la femme, au début de la relation, est plus attentive aux sentiments du mari et enthousiaste à l'idée de développer une relation profonde et intime. Et elle sait plus intuitivement comment construire une relation qui est plus qu'un simple marathon sexuel. Par contre, le mari a moins intuitivement et naturellement la compréhension, la conscience intuitive de ce que devait être la relation. Il ne sait pas comment aimer sa femme au début. Il ne sait pas comment l'encourager. Et il doit apprendre que aimer une femme n'est pas du tout la même chose que aimer un copain. Et nous allons en parler tout à l'heure. Ok, premier point. Et restez en Éphésiens 5 si vous pouvez. Marie, aimez chacun votre femme avec cet amour agapé qui est un amour qui s'identifie. Premier point. Vous devez avoir un amour qui s'identifie, qui vous amène à vous identifier avec votre femme, comme si vous êtes un seul. Et là, nous relisons les versets 28 à 33. Où Paul dit ceci, « De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais, en effet, personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Et que que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. » Alors, si vous êtes mari ou si vous le serez un jour, ça veut dire que votre mission dans la vie devient, dès que vous êtes marié, de regarder le bonheur de votre femme comme étant pas une chose différente que votre bonheur vous-même. Tellement vous la prenez à vous-même que vous ne pouvez pas vous permettre de considérer votre femme comme une réalité et vous-même comme une autre. Son bonheur comme une chose et le vôtre comme une autre. Tout comme moi, je ne peux pas buter mon orteil contre ce piano très fortement et dire je vais tout à fait bien parce que mon orteil ne va pas bien. Et en fait, pour moi, je m'identifie tellement avec mon corps c'est moi. Si mon pied ne va pas bien, je ne vais pas bien. Et c'est aussi intime que cela, ce que le Seigneur veut. Et c'est ça le mystère de l'amour de Christ, que le Christ, et nous devons voir le Seigneur Jésus en tout cela d'abord, parce que sans voir en Christ cet amour, nous ne pouvons pas l'imiter nous-mêmes. Ok ? Parfois les gens disent que on n'a pas besoin de doctrine. Mais je vous assure que cet amour auquel je vous exhorte, vous ne pouvez pas le comprendre et l'agir sans la doctrine, sans l'explication, sans instruction, et surtout sans le voir en Christ d'abord envers vous. Plus vous le voyez en lui, plus vous allez l'attraper. D'accord ? Donc nous voyons le Seigneur qui, rappelez-vous, quand Saul de Tarse persécute les chrétiens, l'Église primitive, Jésus apparaît à Saul sur la route de Damas et il dit à Saul, « Pourquoi me persécutes-tu ?» Alors que Paul persécute l'Église. Christ est au ciel. Mais tellement le Seigneur s'identifie avec son peuple persécuté, ça signifie que lui-même, il est persécuté. Et nous le devons à notre femme, à chacun, d'avoir une même attitude. Donc, ça signifie tout simplement que votre femme, avec de plus en plus de temps, et je me prêche à moi-même, doit pouvoir dire que pour mon mari ne peut pas être heureux s'il me voit malheureux, en quoi que ce soit. Il est devenu tellement attaché à moi, tellement un avec moi, qu'il ne me voit plus comme un obstacle sur son chemin, ce que beaucoup d'amis, beaucoup de maris font, ou bien tout simplement comme un objet dans les marges de ma vie. Pour beaucoup de maris, leur femme, c'est juste un des articles dans leur grande vie, mais loin de là. Nous devons nous identifier complètement avec notre femme. Alors voilà les hommes, voilà le premier défi. Deuxième défi. Marie, aimez votre femme avec cet amour agapé qui est aussi un amour qui se sacrifie, un amour qui s'identifie, un amour qui se sacrifie. Cela, nous voyons dans les versets 25 et 26. Si vous voulez bien lire, c'est la nature même de l'amour de Jésus-Christ pour nous. Marie, aimez votre femme, chacun votre femme comme Christ, le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et se livrer, c'est se livrer à la crucifixion. Et c'est uniquement pour elle. Le Christ se livre, se perd tout pour elle. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé son Église et s'est livré. Alors, c'est vraiment très fort et nous devons nous demander qu'est-ce que ça signifie. Premièrement, ça signifie pour vous les maris et pour vous les hommes qui allons vous marier que vous devez apprendre à habituellement mettre votre femme en première place avant vous-même. Être prêt à vous priver de plein de choses pour qu'elle ait ce dont elle a besoin. Parce qu'il n'y a aucun autre moyen d'aimer quelqu'un profondément. Il y aura mille et mille fois dans votre mariage où il y a un choix. Soit je vais aller faire mon passe-temps, jouer au tennis avec les potes, toutes les semaines, et laisser ma femme seule à la maison. Soit je vais penser à elle et je vais dire, je vais penser à sa préférence. Et bien sûr, on agence ça de toutes sortes de manières et ta femme peut aussi dire, va jouer avec tes potes, bien sûr. Mais c'est la disposition du cœur qui est importante. Le mari n'est pas en train de penser à lui-même tout le temps. Ce n'est pas planète moi, n'est-ce pas, chez le mari. C'est planète toi, d'accord? Et ce n'est pas une chose qu'on fait dans les moments exceptionnels. Je sais que tout mari va se sacrifier pour sa femme dans une situation de crise, s'il n'est pas complètement borné, n'est-ce pas? Mais ici, nous parlons d'une manière habituelle de s'entretenir avec sa femme, de dire qu'est-ce que je peux faire pour toi, même si ça veut dire que je perds ce que j'aurais voulu. Parce que sacrifier, c'est ça. Et le test pour nous et notre amour, c'est est-ce que j'aime ma femme jusqu'au point de perdre quoi que ce soit dans ma vie? La possibilité de faire un passe-temps, ma préférence de musique dans la maison, c'est tellement banal parfois, n'est-ce pas? Ce que j'aime manger, les amis qu'on va inviter la semaine prochaine, est-ce que c'est toujours moi qui dicte, moi qui pense à mes préférences en premier, ou est-ce que j'apprends à donner de manière à ce qu'elle soit gagnante? Nous sommes allés, moi et Nikki, une fois chez un jeune couple qui venait de se marier et qui avait des problèmes déjà dans le mariage, des problèmes assez sérieux, qui nous disait qu'il passait parfois 4-5 heures dans des disputes, qui n'en finissait pas. Et nous mangeions avec ce jeune couple, et pour essayer de régler leurs problèmes, ils avaient décidé qu'ils allaient avoir un mariage 50-50. 50% chacun, 50%. Chacun donne 50. Et donc, au repas, puisqu'elle a servi le plat principal, c'était à lui de verser les boissons. Et ils l'ont dit devant nous. Moi, j'ai servi. Et, chers amis, c'est une recette de catastrophe. Parce que ça vous met dans quel mode? Ça vous met dans une mode de compter pour assurer que vous ne donnez pas trop à l'autre. Je ne peux pas imaginer une attitude plus contraire à l'amour. De compter pour être sûr que je ne donne pas. Mais voilà cette attitude dans laquelle nous tombons souvent. Mais dans l'optique biblique, l'amour sacrificiel n'est pas 50-50, c'est 100-100. C'est chacun qui se donne complètement. Ça, c'est moi. Je pensais que c'était... Oui. Ok. Excusez-moi. Donc, je voulais savoir où j'en étais. Et on ne va pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui. On va finir la semaine prochaine. Mais allons juste un peu plus loin pour décrire cet amour. Donc, mon principe qui me guide en tant que mari ne doit pas être de compter pour me limiter, mais de dire qu'est-ce qu'il va bénir et nourrir et chérir ma femme, quel que soit le prix de cela. Un auteur sur un livre de mariage donne relate cette situation véritable qui s'est passée, qui concerne un officier militaire qui a sauvé sa femme d'un hôpital mental en apprenant à l'aimer de manière sacrificielle. Donc je vous lis le petit récit. Le psychiatre avait prescrit que sa femme soit admise à l'hôpital psychiatrique local. C'est une citation du livre. Le mari était abasourdi et mis au défi, mais il ne savait pas comment l'aider. Il a demandé conseil à l'aumônier militaire et a appris qu'il devait s'asseoir avec sa femme, la prendre dans ses bras et lui demander de lui faire part de ses véritables sentiments vis-à-vis de lui en tant que mari. Il suivit ce conseil avec beaucoup de difficultés, car il était douloureux d'entendre ce qu'elle disait, les choses qui, selon elle, il était en train de faire pour nuire à leur mariage. Pendant qu'elle parlait, le téléphone a sonné et il s'est senti sauvé par la cloche. C'était son commandant. Elle était fâchée parce qu'elle pensait qu'il ne reviendrait probablement pas finir cette conversation. Mais elle a entendu une phrase sortir de sa bouche au téléphone qui non seulement la préservait d'entrer complètement dans une crise mentale et d'aller être obligée d'aller dans l'hôpital, mais une phrase qui l'a également incitée à se glisser dans une chemise de nuit et vouloir entamer un moment romantique. Donc quand il est revenu de l'appel, voilà sa femme dans sa chemise de nuit. Vous voulez savoir la phrase qu'il a dite? Après l'appel, elle se cala calmement sur ses genoux. Qu'avait-il dit à son commandant? Il a simplement dit: « Monsieur, est-ce que quelqu'un d'autre pourrait prendre cette tâche ce soir? Je suis au milieu d'une période très importante avec ma femme, c'est sérieux et je ne veux vraiment pas partir à ce stade. » Cet officier militaire avait commencé à prouver par cette phrase à sa femme qu'elle était d'une grande valeur pour lui. Il se sacrifie quelque chose de la possibilité de plaire au commandement, la possibilité de faire quelque chose d'important, de se sentir épanoui dans une situation parce que c'est à lui qu'on fait appel. Enfin, quoi qu'il en soit, il a dit: « C'est ma femme d'abord et moi et mes affaires après. » Et ça, donc ça, il avait compris quelque chose. Les hommes, combien de fois est-ce que vous cédez vos passe-temps, vos préférences par rapport aux émissions de télé, vos préférences par rapport à la musique, le choix des amis, le choix des activités à votre femme? Il y a des gens qui me disent parfois, mais moi je suis un bon mari, je travaille dur dans ma carrière et je subviens à tous ses besoins. Et moi, je réponds à ça, si vous n'êtes pas en train de vous sacrifier pour elle, de manière à ce qu'elle se sente vraiment mise en la première place, mise même avant toi et tes intérêts, tu n'as même pas commencé à comprendre ce que c'est que d'aimer une femme. Et le fait que tu travailles dur et tu subviennes à ses besoins matériels, eh bien, je dis que ce n'est pas beaucoup plus que de payer le salaire de ta femme de ménage. Parce que si tu ne sacrifies pas pour elle, elle est plus ou moins cela. Quand un homme, si nous ne nous sacrifions pas pour notre femme, vraiment pour la mettre dans cette place de valeur, qu'est-ce qui va arriver quand un autre homme s'amène et s'intéresse à elle et se sacrifie pour elle dans le lieu de travail ou dans un autre contexte? Elle va peut-être vite oublier ce mari qui ne sacrifie rien pour elle. Je prendrai juste un point de plus et puis je couperai jusqu'à la semaine prochaine. Mais je veux qu'on entre assez dans la matière pour que nous soyons vraiment dedans afin de vraiment pouvoir réfléchir un peu cette semaine, le mari. Donc, l'amour de mari pour sa femme, c'est un amour qui s'identifie avec elle, qui se sacrifie pour elle et qui prend l'initiative envers elle. Dans Éphésiens 5, 25 et 26, nous lisons que le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Ce que nous savons, si nous connaissons la Bible, c'est que ce n'est pas une réponse à sa demande. C'est une initiative que le Christ prend vis-à-vis de vous lorsque vous ne cherchez même pas Dieu. Et ainsi, 1 Jean chapitre 4 dit ceci au sujet de l'amour de Dieu. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Écoutez bien, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc l'amour de Dieu pour nous et l'amour de Christ pour l'Église est un amour qui est au-devant, qui prend le premier pas. Alors les hommes, je sais que quand vous avez fait la cour à votre femme, vous avez pris l'initiative, je l'espère, du moins. Parce qu'aujourd'hui, même ça change beaucoup. Mais vous faisiez preuve de beaucoup d'initiatives, n'est-ce pas? Vous vouliez la connaître, vous passiez des moments sur votre lit le soir en ressassant tout ce qu'elle t'avait dit dans la journée, tout ce qu'elle avait fait, en réfléchissant à elle, n'est-ce pas? Et vous avez inventé, imaginé des moyens de passer du temps avec elle, de lui montrer l'amour, et vous avez pris l'initiative, faisons ceci ensemble ce week-end, n'est-ce pas? Et donc ça, c'est vraiment une caractéristique de l'amour biblique, de l'amour agapé, qui n'est pas dans l'attente, qui n'est pas passif, mais qui est au-devant. Et comment est-ce que nous pouvons montrer de l'initiative envers notre femme? Parce que pour une femme, si le mari, une fois qu'il a sa femme, il devient passif, c'est un grand problème. Dans le moment de faire la cour à la femme, il est plein d'énergie, plein d'initiative, et dès qu'il l'a, il est tout tranquille à la maison et donc passif. C'est un peu comme le chien qui poursuit la voiture, n'est-ce pas, et qui aboie. Qu'est-ce que le chien va faire avec la voiture une fois qu'il l'attrape? Ça, c'est la question mystérieuse qu'on va voir. Et qu'est-ce que l'homme va faire une fois qu'il a cette femme qu'il a tellement poursuivie? Et souvent, ça devient une chose acquise. Et nous devons, les hommes, lutter contre cela de toutes nos forces. Et je vous donne juste une ou deux idées au sujet de comment prendre l'initiative. Et nous avons tous, moi le premier, besoin de travailler sur cela, par la grâce de Dieu. La première chose que nous pouvons faire pour prendre l'initiative, c'est de maintenir et développer l'intimité de relation avec ta femme en lui parlant. En lui parlant, en la cherchant, en cherchant à verbaliser ton amour. On parle de toi, parle d'elle, parle de votre amour, parlez de votre relation, parlez de vos désirs, vos rêves, votre vie future, de vraiment vous livrer complètement à elle et demander. Regardez toujours ta femme comme quelqu'un, un trésor à découvrir, dont tu ne connais que la première partie. Deuxièmement, on prend l'initiative, nous prenons notre initiative non seulement socialement, en cherchant la relation, en cherchant l'intimité avec notre femme, mais aussi en essayant de la bénir spirituellement. Dans ce passage, nous lisons que le Christ s'est livré pour l'Église afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride. Et dimanche prochain, je vais vous parler d'un amour qui bonifie ou qui rend belle sa femme. Mais je veux juste dire que nous devons bâtir dans la vie de notre femme sur le plan spirituel. Et votre femme doit pouvoir vous dire un des plus grands facteurs dans ma vie pour m'amener à une joie, une paix, un caractère chrétien paisible et intègre, c'est mon mari. C'est tout ce qui m'a aidé, c'est la manière dont il m'a nourri, dont on a lu des choses, on a prié ensemble, il a initié tellement souvent cette conversation sur la Bible, sur la relation avec Dieu. Voilà, c'est une autre manière dont l'homme doit être au-devant de la femme et prendre l'initiative pour lui faire du bien. Troisièmement, sur le plan romantique et sexuel. Et bien sûr, l'homme doit être un amant sensible à ses besoins, tendre vraiment qui prend l'initiative de la bonne façon, de la manière dont la femme se sent désirée et aimée sur tous les plans. On pourrait dire plus, mais je crois qu'on va s'arrêter là. Et lorsqu'une femme se sent cherchée par son mari, qui prend l'initiative, qui se sacrifie, qui s'identifie avec elle, alors c'est une femme heureuse. Et la prochaine fois, nous allons finir en parlant de quelques autres aspects. Bien, nous allons chanter ensemble dans le recueil bleu, le numéro 280.